Le roman des poètes, l'émission vagabonde de la BIP. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
Se la poesía no te aiuta a vivere, allora fate qualcos'altro.
Shiri e Shamzayar non giungono, basta che
L'émission quinzomadaire de la BIP, brigade d'intervention poétique, Michel Armatz et compagnie. Une émission pour raconter la vie des grands poètes, connus ou pas connus. Avec au gré des émissions, les voix de Charo Beltran, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, Florence Mourieras et messieurs Christian Boisson, Jean-Claude César, Yves Flanc, Julien Gill, Marc Pastor, Patrick Vendrin et Michel Arbatz.
Si la poésie vous aide pas à vivre, vous êtes autre chose.
Bonjour ou bonsoir. Nous consacrons cette émission de la BIP, cette deuxième émission, à René Guicadou, poète de la Loire, qui a eu un parcours de vie très bref, hein, de 1920 à 1951, donc il est mort à 31 ans, qui a écrit et laissé une œuvre abondante. Hein, c'est assez rare de trouver un poète qui traverse la vie comme ça, comme une comète, et qui laisse autant de... d'intérêt et de traces autour de lui. On l'a laissé au début de la guerre où il vient de perdre son père et il est donc mobilisé et incorporé dans les Pyrénées, à Navarreins. Il va être d'ailleurs, enfin c'est une période très étrange, hein, comme tous ceux qui témoignent de cette espèce de fausse guerre. Il est mobilisé à Navarreins et il va être blessé d'ailleurs au cours d'un exercice d'entraînement. Il a une blessure assez terrible, il s'empale sur une fourche qui est cachée dans une meule de foin en faisant un saut dans un exercice. Et donc il est hospitalisé et réformé. Et c'est une période où, bon, on s'est pas étendu sur le caractère de Cadou, mais c'est à la fois un homme très rieur, blagueur, etc., mais qui a son jardin secret et qui continue à écrire dans sa chambrée, un petit peu en cachette de tout le monde. Il ne lâchera plus cette corde à laquelle il s'attache et il décide de se consacrer à ce moment-là entièrement à la poésie. Il va revenir en Loire-Atlantique, donc dans son pays natal, en décembre 40. Il est démobilisé et là, il va commencer un parcours d'instit en remplacement, on dirait aujourd'hui. Quoi. Il a des tribulations qui vont l'amener dans tous les petits villages ruraux de la Loire-Atlantique. Ça commence d'ailleurs à Mauves-sur-Loire, puis à Bourgneuf-en-Retz. Il va naviguer à travers tout le département. Il entretient toujours une correspondance très importante avec Max Jacob. Voilà, mais aussi avec Pierre Reverdy, qu'il a pris un peu sous son aile. Et il est très ami avec, on n'a pas cité tous les amis qu'il a connus autour de Michel Manol, mais il y a toute une bande de jeunes écrivains ou d'apprentis poètes. Notamment, il y a Sylvain Chifolo. Et il va d'ailleurs, parce que c'est pas très drôle, hein, il fait souvent référence à ces chambres d'hôtel miteuses dans lesquelles il est logé comme instituteur. Quand il est instituteur à Bourgneuf-en-Retz, les parents de Sylvain Chifolo vont l'héberger dans leur hôtel. Il va sortir de cette chambre qu'il décrit comme un truc minuscule, où il n'a même pas une table pour écrire, quoi. Il écrit sur ses genoux. Et il fait les premières rencontres de ceux qui va devenir ce qu'on a appelé plus tard l'école de Rochefort. hein, c'est-à-dire toute une bande de jeunes écrivains ou poètes qui se retrouvent dans la même région, par le biais de Michel Banol, mais bon, les plus connus qui ont laissé des traces après, ben, c'est Jean Rousselot, c'est Luc Bérimont, qu'on a entendu au début de la première émission, c'est
Marcel Béalu,
Lucien Becker, Marcel Béalu, qui tenait ensuite à Paris une petite librairie au Pont Traversé, où j'ai découvert René Guicadou.
J'ai aussi eu l'occasion de traîner mes guêtres.
Voilà, Béalu qui a écrit d'ailleurs aussi un dernier visage de Max Jacob. Enfin, tous ces poètes-là sont très réunis par l'admiration qu'ils ont pour Max Jacob. C'est la guerre et ces poètes ont décidé d'écrire, mais évidemment, ils sont tous profondément opposés au nazisme qui occupe le pays. D'ailleurs, à un moment, je crois que même Cadou sera hébergé, je crois que c'est à Saint-Aubin-les-Châteaux, où il est dans le même bâtiment que les occupants. C'est-à-dire qu'il a une chambre d'instit et à côté, c'est la Gestapo qui... Donc, ils sont tous opposés, mais ils ont décidé de ne pas inféoder leurs plumes. Comme d'autres au combat résistant, ils sont un peu en dehors de toute la vague des poètes casqués que Segers a publié, oui.
Oui, ça, d'accord, Michel. Ils sont en dehors de ce mouvement-là, effectivement, des poètes armés et casqués, comme on l'a dit, oui. Mais en même temps, c'est une situation qui est assez différente de celle, par exemple, d'un Jean Giono, qui est un militant de la non-intervention.
Hein, pacifiste, on dirait.
Pacifiste, voilà.
Ce qui lui vaut d'ailleurs beaucoup d'ennuis à la Libération.
Ce qui vaut beaucoup d'ennuis à la Libération. C'est un petit peu différent. En fait, c'est la poésie en elle-même, une certaine idée de la poésie, qu'on pourrait du reste discuter, mais ce n'est pas lieu là, ici, une certaine idée de la poésie qui constitue l'acte de résistance en soi, pour eux.
Oui, et puis une espèce de proclamation des valeurs de la vie. Il y a quelque chose qui est très très important, c'est l'amitié entre ces gens-là. Ça, c'est quelque chose de très très puissant, hein, puisque ça va faire une sorte de confrérie. J'ai oublié de citer aussi Jean Bouillet, qui d'ailleurs prête sa maison. Le couple Jean et Colette Bouillet vont accueillir à Rochefort tout ce groupe qui va se réunir à peu près tous les 15 jours, tous les mois, pour des grands repas. Enfin, il y a un côté festif, on échange les textes qu'on a écrits, etc. L'amitié, c'est quelque chose de fondamental dans la vie de Cadou. Je suis allé interviewer Luc Vidal, donc Luc Vidal qui est éditeur de poésie à Nantes, mais qui est aussi l'éditeur qui a créé les cahiers de l'école de Rochefort. Alors, pour la petite histoire, hein, nous avons beaucoup de canulars dans cette affaire. J'ai effacé, évidemment, l'interview par une mauvaise manœuvre. Et donc, je suis allé, je m'en suis excusé auprès de Luc Vidal. Et on a quand même retrouvé des extraits d'interview qu'on a repris d'une émission qu'il a faite à France Culture autour du film qu'il a réalisé sur René Guicadou, qui s'appelle René Guicadou, Visage de la solitude.
Les visages de la solitude.
Hein. Et donc, ça commence un petit peu abruptement parce que, bon, j'ai réuni quelques bouts, mais il va parler d'un événement qui intervient plus tard dans la guerre, mais il va parler de l'amitié et de ce que c'est que ce groupe de l'école de Rochefort.
Ce qui est terrible, c'est qu'une bombe avait détruit sa chambre, mais il avait perdu ses malles à l'être. C'est le facteur. Et d'ailleurs, le mot être, c'est important chez Cadou. L'auxiliaire être, c'est fondamental. Pas avoir, être au monde. Et on n'imagine pas ce que des jeunes gens de 20 ans vivaient tous les jours avec l'amour de la poésie, mais c'est une façon de survivre, enfin, d'une certaine manière. Et surtout, sous les bombes. Vous citiez tout à l'heure cette langue en langage bleu que vous savez, c'est un poème qui est lié au bombardement. Et j'ai des trous noirs dans les ailes, dit-il. Ben, c'est des trous noirs faits par les bombes, quoi. Tout simplement. Vous voyez, il y a entre l'histoire réelle, la grande histoire, et l'histoire de chacun, vraiment une solidarité, une alliance profonde. Et le génie de la poésie de Cadou est de traduire ça, redisons-le, en langue bleue que vous savez. Pour lui, c'était capital. Il aimait la solitude, mais fertilisée par les amis qui venaient, par le courrier régulier. Quand Cadou n'avait pas à lui faire, là où il a fini sa vie, les 5 dernières années, où il a écrit la majorité de son œuvre et des chefs-d'œuvre de poésie, le facteur était l'homme qui assurait les bons traits d'union. Sinon, Cadou savait que la maladie le rongeait. Il n'avait pas conscience de sa propre mort, parce que à Jean Rousselot, qui lui tenait la main avant de la délivrance dans la mort, il a dit d'ailleurs, ça y est, Jean, je suis foutu. Mais il avait retrouvé, selon Hélène, une certaine sérénité. Cadou était quelque part chrétien, mais sa cathédrale était végétale. C'est pas pour rien qu'il a écrit un poème, par exemple, sur Saint-François d'Assise. Il aimait les bêtes. comme saint François d'Assise. Et cette donnée-là, bon, il avait, c'est Mancelet qui dit ça dans le film, dans la main droite ou la main gauche, peu importe, la relique, disons, de saint Benoît et la faucille, le faucille et le marteau. Mais son engagement à Cadou n'était pas politique. Et la poésie des poètes de l'école de Rochefort, on peut la voir comme des poètes qui se sont mis à la vigie pour faire préserver un chant. Ce ne furent pas des résistants. Les productions de l'école de Rochefort n'étaient pas une maison d'édition résistance au sens où Pierre Segers a pu créer ses poètes casqués, où Max-Paul Fouché a pu créer la revue Fontaine à Alger. Mais elles ont maintenu, dans un temps où la censure était là, elles ont maintenu le champ, un champ de persistance de la poésie.
Mon Dieu, cela m'arrive de penser à toi comme un survivant de la marine à voile. Je me mets sous la lampe et je te dis raconte le riz, le poisson sec et le trafic des montres. Tu serais tout à fait comme l'oncle Isidore qui était roux de poil et qui peut-être est mort et qui laissait traîner dans le fond de ses malles un chapelet en bois de son pays natal. Mon Dieu, cela m'arrive de penser à toi comme un survivant de la marine à voile. Je me mets sous la lampe et je te dis raconte le riz, le poisson sec et le trafic des mondes. As-tu à temps et tant vécu et bourlingué que ton amour remonte en moi comme un noyer? Ce que je prends ce soir pour ton triste sourire, c'est la vague du sort qui berce le navire. Mon Dieu, cela m'arrive de penser à toi comme un survivant de la marine à voile. Je me mets sous la lampe et je te dis raconte le riz, le poisson sec et le trafic des montres. Et celui que je vois et que je crois tout près, quelque part sur un rivage crucifié. Mais pas si loin, mon Dieu, que je ne puisse joindre mes deux mains sur ton front comme des térébintes. Mon Dieu, cela m'arrive de penser à toi comme un survivant de la marine à voile. Je me mets sous la lampe et je te dis raconte le riz, le poisson sec et le trafic des montres.
Aveugle je suis pour vous voir, disait la vieille en son fauteuil, l'épicière de Saint-Benoît-sur-Loire. Mais de Monsieur Jacob, je me souviens bien. Allez du côté de la basilique, et par la voie étroite, avancez jusqu'au chœur, vous le trouverez à genoux. À genoux, est-il possible, quand on est faible comme fil? Lorgnon d'or fin et gros sabots, Monsieur Jacob sait ce qu'il faut. On voit beaucoup gens de Paris hocher la hure quand il prie. Mais je sais bien, moi qui vous parle, que Monsieur Jacob, ça lui tarde de frotter lui du paradis. Croyez-vous, c'est un érudit, disent personnes bonnes à battre plus raisonneuses que savates. Monsieur Jacob, moi je le sais, et vous le dis, sauf le respect, c'est Belzébuth dans un corset, mais tel qu'enfin le clan adverse des anges, pareils à l'averse, le considèrent, le grandissent en un sublime sacrifice.
Encore une lettre à Max. Mon cher Max, j'ai vu ce soir Julien Lanoé traversant notre bourg tout exprès en auto. Le bourg montait au ciel un soir de communion. Pour me voir, ah, tu te doutes de l'émotion. Lanoé dit au curé, pour René Guicadou, quelques mètres, au fond de l'enfer, tout au bout. Je sortais de ma classe, et soit dit déclassé, le col ouvert et l'uniforme rapiécé. À peine libéré, je largue la fenêtre, afin que le poème ou le printemps pénètre. La Noé est là, ma main bafouille, et j'entretiens notre ami de ces fantômes quotidiens, qui font que tu reviens toujours et nous rassemblent, ô Max, dans l'infortune de ma chambre. À Noël de Cadou, ça sent le gaélique, la poésie tombée en domaine public. Je t'aime, et je fais bien. Et c'est un réconfort, ô Max, de te savoir au-delà de la mort, en moi, présent, intact et toujours secourable. Tu ne sortiras point à jeun de cette table où ton portrait figure et sans cesse grandit. N'est-ce pas, chère Lanoé, que notre ange maudit pèse comme un oiseau sur ma feuille et me donne le courage de ne ressembler à personne.
La venue de Guillaume. Qu'est-ce qu'il y a donc dans l'air ce matin qu'on entend corner les autocars et siffler les trains? Ambassadeurs et rois se roulent, qu'en carrosse, qu'est-ce que c'est, cette formidable noce? J'étais au lit et me voici soudain tout habillée. Et marchant d'un bon pas sur la route sans ombre, vers une impossible et merveilleuse rencontre, tu es vêtue de ta tenue bleu horizon, avec un peu de plâtre de la tombe sur les galons. Et tu t'en viens d'un bord sur l'autre, comme un homme ivre, à cause de tes poches qui sont bourrées de livres. Ah, Guillaume, est-ce possible que tu sois seulement un fantôme de nuée quand je te vois?
Entre Louis-Ferre et Saint-Aubin. Entre Louis-Ferre et Saint-Aubin des Châteaux, il y a un ruisseau qu'on nomme le Néant. On le traverse à pied sec, les yeux secs également. Et l'on marche pressé dans cette nuit soudaine, qui bave sur les bords, qui fait mal aux pommiers, vers un village épais comme un fond de citerne, juste sous la gouttière de l'éternité. Ah, que le vin est bon quand l'amitié propose, qu'il est doux d'écouter et de humer le vent, quand l'ami parle de canards qui se posent là-bas, très loin, à la surface des étangs. Et comme malgré soi on pense au téméraire qu'on trouva un matin dévoré par les loups sur un étang gelé, tandis que la lumière d'un plafond gris et blanc tombe sur nos genoux.
Toute ma vie, et c'est bien peu si l'on regarde, avec des yeux d'avant la terre, la lucarne, où s'égosille un ciel de crin qui n'en peut plus d'être beau de travers et de porter ombrage au plus dévoué, au plus sincère des visages. Toute ma vie pour te comprendre et pour t'aimer, comme on se couche à la renverse dans les blés, en essayant de retrouver dans le silence l'alphabet maladroit d'un vieux livre d'enfance. Je m'entoure de toi comme un enfant frileux. Je pars, je suis en route depuis des siècles, je... T'arrives un matin beau, comme un matin de chasse. Tu ne sais pas que je suis là, et je me place. Tout contre toi, comme une porte mal fermée, qui boit son lait et qui respire doucement. Je te regarde et tu souris sans mouvement, d'un sourire venu de plus loin que toi-même, qui fait que tu es belle et qui fait que je t'aime.
Thank you.
Tafar Youssef accompagnait les paroles de l'amour, poème de René Guicadou, qui était dit par Aurélie Vallier. On continue à suivre le parcours de René Guicadou. C'est la guerre de 39-45. Et il va faire le vagabond d'école en école publique à travers toute la Loire-Atlantique. Il est à Saint-Aubin. Le château, tout près de Châteaubriand, il va d'ailleurs croiser, c'est assez terrible, il croise, alors qu'il est en vélo, le convoi qui ramène les corps des 50 otages qui viennent d'être fusillés, vous savez.
Châteaubriand.
Châteaubriand, donc en 41, en répression au fait qu'un officier allemand, Holtz, avait été descendu par un résistant à Nantes, Le commandement allemand ordonne l'exécution de 50 otages. Voilà, en fait, il y en a eu 48, mais parmi ces 48, il y avait Guy Moquet. Donc, je voulais juste lire un petit extrait du récit qui est fait par Michel Manol sur cette période. Il va rejoindre sa Brière natale dans un poste qu'il a à Pompa d'Herbignac. Il va également aller à Saint-Herblon. Et c'est là, on en avait parlé un petit peu au début, qu'il va apprendre le métier de tonnelier auprès d'un tonnelier. Alors, il raconte cette période comme une période de solitude très profonde. Je suis là dans ma mansarde, avec ma malle éventrée dans un coin, des lilas qui se fanent, tout ce que ne peuvent plus tenir mes bras à jamais vides, drôle de drame. Je m'enlise de plus en plus dans les étages insalubres de la province. Je croupis sur place. Donc, il se plaint beaucoup de cette espèce de à la fois de vie matérielle très très pauvre, très démunie, cette grande solitude, quoi qu'il partage beaucoup avec les gens des villages, mais il dit c'est une espèce de solitude à ras de terre.
Il dit aussi ce qui permet d'insister sur cet état de solitude quand même très très, très extrême malgré ses rencontres, son attente du facteur qui apporte presque nécessairement la bonne nouvelle attendue, c'est-à-dire des nouvelles des amis. Tout simplement.
Voilà, il dit qu'il se ronge en attendant le facteur.
Voilà.
Et puis, il faut dire aussi, il a quand même... Alors, il écrit, il publie, il commence à publier, puisque cette petite école de Rochefort a quand même réussi à créer une édition qui s'appelle Les Amis de Rochefort. Mmh. Et il publie un recueil qui s'appelle Bruit de cœur. Mais bon, c'est 100 exemplaires. Hein, c'est toujours tiré à des tout petits tirages, mais ça circule. Ça circule dans ce cercle d'amis. À propos de sa poésie, justement... Ma poésie vaut ce qu'elle vaut, mais je puis te dire qu'il n'entre pas dans mon ambition d'en faire un sphinx, un hébreu, une patiente réussite d'échecs qui ne pourrait intéresser qu'un petit club de gentlemen attardés, CF, les poètes. C'est un peu sa situation, mais enfin, voilà, c'est pas ce qu'il vise. J'écris comme je parle, en plein vent, et tiens à ce qu'on m'entende. Parle-moi du vin clair qu'on boit sans qu'on s'en aperçoive, et qui met, suivant une expression populaire, du soleil au cœur. Je cherche surtout à mettre de la vie dans mes poèmes, à leur donner une odeur de pin blanc, un parfum de lilas, la fraîcheur d'une tige de sauge ou d'une oreille de lièvre. Est-ce ma faute à moi si mon amour est sans histoire ? Bon, c'est peut-être aussi un message sur le fait qu'il vit très seul, qu'il n'y a pas d'amoureuse dans sa vie, mais ça sera le prochain épisode.
Voilà.
Alors, pour me défausser un petit peu, je dirais qu'en fait, les textes qu'on va lire maintenant témoignent aussi d'une certaine manière d'une prise de position un peu tardive, mais donc j'ai dit que Cadou croise le convoi qui ramène les corps des suppliciés de Châteaubriand. Il écrit des textes autour de ça qu'on va entendre. Il les écrit plus tardivement. Sur le coup, il est quand même pris, enfin, à la fois dans ce dont on vient de parler, cette espèce de solitude à ras de terre dont il ne sort pas.
Chanson de la mort violente. C'était un mort de mort violente. Un mort trouvé dans un fossé. Quelqu'un qu'on n'avait pas osé recouvrir aussitôt de cendres et que le ciel avait caché. De le voir si jeune et si pâle et si calmement endormi, dans la mort, on avait envie de mourir d'un amour semblable pour mieux revivre auprès de lui.
Il portait à son côté gauche une étoile qui fut son cœur, et son beau sang, qui faisait peur, avait coulé jusqu'à sa poche, la gonflant comme un autre cœur. Aimé, ses mains gardaient la trace de son amour et de ses fers, sa pauvre bouche de travers souriait encore sous la grimace qu'en mourant il avait dû faire.
Il sortait d'un pays d'enfance, couvert de flammes et d'oiseaux, un pays qui montait si haut qu'il l'avait appelé la France et le serrait contre sa peau.
Ce n'était pas un patriote, mais un enfant du premier jour qui chantait à tue-tête pour dominer le bruit sourd des bottes qui effarouchaient son amour.
Il chantait la fenêtre ouverte et si loin portait sa chanson qu'on l'entendit dans les prisons où, sur des murs blancs de salpêtre, des hommes reposaient leur front.
Elle passa dans les campagnes, suivit la route des laitiers. Devant la porte des chantiers, elle alluma des feux capables de réchauffer le monde entier.
Les fusillés de Châteaubriand. Ils sont appuyés contre le ciel. Ils sont une trentaine appuyés contre le ciel, avec toute la vie derrière eux. Ils sont pleins d'étonnement pour leur épaule qui est un monument d'amour. Ils n'ont pas de recommandation à se faire parce qu'ils ne se quitteront jamais plus. L'un d'eux pense à un petit village où il allait à l'école. Un autre est assis à sa table et ses amis tiennent ses mains. Ils ne sont déjà plus du pays dont ils rêvent. Ils sont bien au-dessus de ces hommes qui les regardent mourir. Il y a entre eux la différence du martyr. Parce que le vent est passé là, ils chantent, et leur seul regret est que ceux qui vont les tuer n'entendent pas le bruit énorme des paroles. Ils sont exacts au rendez-vous, ils sont même en avance sur les autres. Pourtant, ils disent qu'ils ne sont pas des apôtres et que tout est simple, et que la mort surtout est une chose simple, puisque toute liberté se survit.
23 avril 46. Mon amour, il y aura demain 4 ans que nous sommes dans cette même chair. 4 ans que je promène à la surface de ton corps les lourds hameçons de la tendresse. Et tout peut s'écrouler. Tout est pollué. Tout suit l'enterrement. Tu es toujours plein d'arbres, mon amour.
Je t'attendais ainsi qu'on attend les navires. Dans les années de sécheresse, quand le blé ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe, qui écoute apeuré la grande voix du temps. Je t'attendais et tous les quais, toutes les routes ont retenti du pas brûlant qui s'en allait vers toi, que je portais déjà sur mes épaules comme une douce pluie qui ne sèche jamais. Tu ne remuais encore que par quelques paupières, quelques pattes d'oiseaux dans les vitres gelées. Je ne voyais en toi que cette solitude qui posait ses deux mains de feuilles sur mon cou. Et pourtant, c'était toi, dans le clair de ma vie, ce grand tapage matinal qui m'éveillait. Tous mes oiseaux, tous mes vaisseaux, tous mes pays, ces astres, ces millions d'astres qui se levaient. Ah, que tu parlais bien quand toutes les fenêtres pétillaient dans le soir, ainsi qu'un vin nouveau quand les portes s'ouvraient sur des villes légères, où nous allions tous deux enlacés par les rues. Tu venais de si loin, derrière ton visage, que je ne savais plus à chaque battement si mon cœur durerait jusqu'au temps de toi-même, où tu serais en moi plus forte que mon sang. Ainsi qu'on attend les navires. Dans les années de sécheresse, quand le blé ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe, qui écoute apeuré la grande voix du temps. Thank you.
quelque part dans une maison pavée de carreaux rouges, derrière un bois de très loin, à la limite de la neige, après le rail, et plus loin encore si tu peux, au-dessus de la vieille photographie sans cadre, très loin, il y a une lampe. Comme autrefois, une lampe, avec de l'huile, avec de gros doigts marqués sur le verre. Depuis 1000 ans, l'horloge est arrêtée. Parmi des linges noirs et des poissons séchés, mais la nuit, on entend distinctement la lampe, comme un insecte dans le drap, comme une très ancienne langue. Et la femme occupée à vivre se souvient d'un enfant, de son sang paré, de son mari dans la forêt qui tarde bien, qui peut manquer et qui lui fait mal aux épaules.
Toi, tu es une grande plaine parcourue de chevaux, un port de mer tout entouré de myosotis, et la rivière où le nageur descend à la poursuite de son image. Tu es l'algue marine et la plante sauvage comme l'arnica. Tu es pleine de poissons dans ta chevelure. Tu es une belle figure, plus belle que toi-même. Tu es celle que j'aime, davantage que le pain, et davantage que mes mains étendues sur chaque versant des collines. Tu es la petite voisine du trèfle et la compagne du lézard. Tu t'ensoleilles sur les pierres et tu es toujours sur ma joue. Si je pense à ta voix, je pense au monastère à 9h du soir, quand les voix se répondent. Si je pense à ta bouche, il me vient à la bouche ce goût de lait, de fruits, de feuilles traversées par les tendres ruisseaux de sève végétale. Et si je pense à toi, c'est qu'il faut bien choisir entre avenir et souvenir.
Mon Dieu, ce n'est pas parce que tu as coupé ta barbe rouge et verte comme des côtes de rhubarbe, ni parce que tu ne te vais plus à l'antique comme les jeunes gens dans les sociétés de gymnastique, que je ne suis pas capable de te reconnaître. Pauvre rouge-gorge à la croisée de la fenêtre, tu m'arrives au moment où je t'attends le moins. Tu entres, tu ne sais plus aucun mot de latin, tu te heurtes au mur de la bibliothèque, avec cet aquabon tenace de l'insecte qui grille dans le four obscur du radiateur les ailes de la nuit, le miel de son cœur. Tu es là, je ne sais comment, tu te réchauffes au feu de bois, tu te tâtes les côtes pour t'assurer qu'il n'y a rien de déplacé dans l'horlogerie délicate de l'éternité. Et je te parle à mots très humbles de la souffrance intraduisible et des coloquintes qui sont en bas dans le jardin et qui éclatent dans l'air avec un bruit de savate qui fait songer au pas de l'homme en son cachot, innocent comme un œuf, et le ciel sur le dos.
Je voudrais mourir dans le soleil, un jour d'été, sans savoir pourquoi. Mourir, tomber comme ça, loin des fermes, sur la route. Une automobile à toute allure, conduite par une jeune fille. Un cheval blanc devant l'église, une porte qui s'ouvre au loin. Et déjà 500 mouches, un rat, dans l'eau de l'herbe, autour du ventre comme un sac plein de chats. Mais pas d'histoire dans les journaux, pas de visite domiciliaire cette fois. Ah, cette fois, le mort n'est pas un héros.
Quelque part, oh, quelque part dans une villa vide du bord des mers, dis mon amour, avec des fleurs dégénérées et des astères. Dans la maison d'un garde-chasse ou bien peut-être dans la petite chambre en bois blanc d'un vieux prêtre. Quelque part tout au fond d'un hôtel de province qui sent la suie mouillée, le cuivre et les harnais. Ou plus loin si tu veux dans un pays malade et fréquenter des seules bêtes de forêt. Ô mon amour, en cet octobre, je t'emporte, à travers cette pluie de sang, des feuilles mortes. Comme un enfant qui cherche à préserver le nid, surveillé deux saisons, la terre se chamarre. De garance et de pourpre, l'on entend les gares. Rappelez longuement les trains bleus qui ont fui, que ce soit en un lieu très humble, avec des lampes, aux vieilles mèches difficiles à remonter, des meubles bas de la poussière sur la rampe, et des plumes en moins aux coques du vaisselier. Car nous avons un goût tenace pour ces choses, qui naissent de nous-mêmes singulièrement, et les pâles soleils qui tombent du couchant ajoutent dans le temps à leur métempsychose.
Je vous connaissais très bien déjà par ses poèmes, et puis nos parents étaient amis. J'avais entendu parler de lui depuis mon enfance. Et ce René Guy Cadou dont on m'avait constamment parlé, tout à coup je me suis trouvée en face de lui. Ça a été une émotion très vive. Je me suis mise à exister tout à coup, véritablement, parce que j'ai rencontré René. C'est inexplicable comment une jeune fille très heureuse et très comblée peut tout à coup complètement rencontrer autre chose et se découvrir, quoi. Je me suis découverte moi-même. Il m'a fait naître. C'est lui qui a créé ma poésie. J'écrivais très peu avant, et c'est grâce à cette rencontre que l'amour de René a créé non seulement sa propre poésie, mais a suscité la mienne. Lui, c'était le pays bleu, parce que dans sa poésie, il apporte l'espoir, il apporte le ciel, il apporte... Et moi, c'était le pays blanc, parce que je n'avais encore rien vécu, quoi. Disons que le monde bleu est beaucoup plus concret, donne beaucoup plus à voir, à goûter, à sentir, et que le monde blanc est plus abstrait quand même. Et c'est peut-être nos deux natures, oui. Il a toujours habité sa Brière natale, finalement. Il n'a jamais quitté son enfance tout en devenant un adulte extrêmement chargé de conscience et de clairvoyance et de cruauté presque de la vision de la vie. Mais son enfance était restée totale en lui, totalement vivante. Et il n'a jamais oublié l'enfant qu'il a été. Il était à la fois rieur et railleur. Vous voyez, il y avait les deux en lui. C'est-à-dire qu'il savait goûter l'instant pleinement et sans aucun regret, et en même temps, habité par une mélancolie. Il pouvait être à la fois complètement preneur de tout ce qui arrivait, avec une affection totale, et en même temps railleur. Il avait les deux attitudes, d'être en plein dedans et en plein en dehors.
C'est Hélène Cadou qui parle. C'est extrait d'un très beau film réalisé par Emilien Awada et dont le scénario a été écrit par Luc Vidal. J'en profite pour dire, je ne l'ai pas dit précédemment, mais que l'interview de Luc Vidal qu'on entendait était extraite d'une émission de Sophie Nolot, hein, d'une émission malheureusement disparue de France Culture. Voilà. On est arrivé à la rencontre de ce personnage, comme elle est arrivée dans la vie de René Guy Cadou, elle le dit très bien. Ça s'est passé donc à Clisson en juin 1943, donc au milieu de la guerre. Elle est étudiante à Nantes. Et c'est l'arrivée du soleil dans la vie de Cadou, hein, comme le disent beaucoup de textes qu'on a déjà entendus. Il va d'ailleurs prendre une chambre à Nantes parce qu'il continue sa pérégrination à travers toute la Loire-Atlantique, mais de temps en temps, il revient souvent à Nantes. Et le premier événement auquel faisait allusion Luc Vidal dans son interview, disant un bombardement avait détruit la malle de lettres de ses amis, c'est effectivement en 43 aussi, c'est-à-dire quelques mois plus tard, en septembre, le 16 septembre exactement, en 43, une bombe détruit complètement la chambre de René Guy Cadou, qui était parti voir Hélène ce soir-là. Miraculé d'une certaine manière, mais la grande perte pour lui, c'est la perte de cette malle dans laquelle se trouvent toutes les lettres de ses amis qu'il trimbalait partout avec lui.
Quelques mots à ce sujet-là. Donc, il dit exactement « Il ne me reste rien des vanités terrestres, pas même un livre ouvert, un verre à moitié plein. » Et je crois que c'est les vanités terrestres, ça aussi, c'est également un des grands thèmes de René Guy Cadou. Hein, c'est-à-dire tout ce qui, en fin de compte, vient un peu en surplus, qui ne vise pas à l'essentiel. Les vanités terrestres disparaissent. Hein, et c'est le bombardement qui fait ça. Voilà. Et le bombardement amoureux et le bombardement de la guerre.
C'est très bien dit. Donc, On va finir cette pérégrination sur un enfin, d'une part, Hélène tombe malade, ça, je ne sais pas si je l'ai dit, elle tombe malade et ça va être long, ça va prendre des mois pour qu'elle sorte de cette maladie. Et puis, pendant que continuent les pérégrinations de René Guicadou à travers, maintenant il est, je crois, à Basse-Goulaine, dans un très, très bel endroit qui est une école qui s'est installée dans un château qui s'appelle La Chênaie, il apprend à ce moment-là la mort de Max Jacob, qui est un grand choc pour lui, évidemment, puisqu'il a été très proche, une sorte de père adoptif et un père en poésie. Et il écrit à ce moment-là un testament d'Apollinaire où il revisite toute la poésie d'Apollinaire. Il en parle beaucoup à ses amis dans ses lettres et où son sentiment religieux aussi se conforte, voilà, à travers ses lectures.
Maintenant que les seuls trains qui partent n'assurent plus la correspondance pour toutes ces petites gares ombragées sur le réseau de la souffrance, oh, je crois bien que ce sera à genoux, mon Dieu, que je me rapprocherai de vous. Le plus beau pays du monde ne peut donner que ce qu'il a. Myosotis ici et là, mais beaucoup d'herbe sur les tombes. Oh, mon Dieu, j'ai tellement faim de vous, tellement besoin de savoir, qu'un couvert d'étain serait le bienvenu dans le plus modeste de vos réfectoires. Que la cuisine soit bonne ou fade, nous ne sommes point ici à l'office. Laissez-moi respirer l'odeur des fleurs qui sont sur les tables et qui ressemblent à des lys. Je crois en vous, hôtelier sublime, préparateur des idées justes et des plantes. N'allez pas redouter surtout quelques conversions retentissantes et qu'un tel ait choisi le pain dur et le sel. Soyez sûr qu'il n'y a rien là que de strictement personnel. Considérez que je vous suis parent par quelques femmes de village et par quelques vauriens d'ancêtres. L'une adorait votre visage, l'autre s'est payé votre tête. Je fais effort. Je voudrais marcher à vos côtés et vous lire des vers. Mais il y a ces relais si reposants dans les limites de la terre. Ah, je me suis conduit de façon ignoble dans les cafés. En présence de vous, j'eus toujours l'air impatienté. C'est pourquoi me voici plus seul encore, plus veule, avec ce masque d'arlequin trop triste sur ma gueule. Pardon, Seigneur. Pardon pour vos églises. Et si j'ai galvaudé dans les champs, si j'ai jeté des pierres dans vos vitres, c'est pour que me parvienne mieux votre chant. Qu'il fût porté par des oiseaux ou à voix d'homme, jeté là comme un boc sur le comptoir de l'harmonium, ou dans l'air comme un col de violon. À 9h du soir, qu'elle était belle, la religion. Ah, j'aurais pu tout comme un autre être choriste et grappiller de long en large le corps du Christ. Mais tous ces blés en feu dans les cristaux du soir se reflétant, c'était vous si intimement qu'il suffisait alors de pousser la fenêtre pour que la joie pénètre et pour vous reconnaître. Que n'ai-je su vous arrêter quand vous alliez entre les saules, les bois de justice à l'épaule, comme un pêcheur au carrelet. Car maintenant tout est devenu subitement si difficile, à cause de cette pudeur en moi et de l'orgueil également imbécile, que je voudrais ramper vers vous. J'en serais encore empêché, par cette dérision de l'acte qui est dans l'ordre de la société. Mais vous, quand vous mourûtes sur le Golgotha, dites: qu'est-ce que ça pouvait vous faire le ricanement de ces gens-là? Si je reviens jamais de ce côté-ci de la terre, laissez-moi m'appuyer au chambranle des sources et tirer quelques notes sauvages de la grande forêt d'orgue des pins. Ô mon Dieu, que la nuit est belle où brille l'anneau de votre main. Tous ces feux mal éteints dans l'air et ces yeux de matou en bas qui leur répondent, ce cri d'amour fondamental qui est celui de notre pauvre monde. En d'autres temps, j'eusse été moine, ou bien gardé les vaches. Et pourquoi pas dans une léproserie de village, maniant les doigts dans le soleil. Heureux celui qui naît en juin parmi les miels, il connaît la beauté des choses éternelles. Oh, sur l'ardoise du ciel, si l'on tient compte de ce pays sans charme où je suis né, si l'on juge à propos mes larmes, Seigneur, je suis exonéré. Qu'il soit coupable, non coupable, toujours en peine de son Dieu, qu'on lui serve pour vin de table la rosée lustrale des cieux.
L'idiot. Dans les profonds jardins des vieilles abbayes, un soir que le soleil dans sa mélancolie ruisselle tristement parmi les tournesols, ainsi que dans les tristes toiles de Van Gogh, un soir de raisins mûrs, de cloches balancées à bout de bras comme un seau vide, dans l'allée, on voit le long d'un mur encore chaud, un vieil homme au visage d'enfant, et pressant sur son cœur deux ou trois touffes de plantain, souriant comme une épousée de 18 ans ou un osseur. Si limpide est son œil, son sourire si grave, qu'on l'aime d'un seul coup et qu'on oublie qu'il bave. Il est là, avec sa main tremblante qui fait mal, et sa pauvre coiffure de papier journal. On y lit « Réunion du Conseil des ministres ». Et ça ajoute quelque chose de plus triste à ce fantôme d'après vêpres qui n'entend que le grignotement de sa montre en argent, tout près, contre son cœur intact et indolore, qui bat sous le boîtier vermoulu de son corps.
Je pense à toi, rue de province, où je passais, au petit trot de l'averse, avec ma fiancée. C'était un soir de lampe basse, en novembre, avec des cris d'enfants déments au fond des chambres. Des chiens maigres hantaient le ciel et les couloirs, et l'on croisait des hommes morts, des hommes noirs. Tu n'avais encore droit qu'à la troisième page des journaux, pas de crime. Rien que des tapages nocturnes et des viols, vraiment, c'était banal. Seulement dans tes murs sanglotait un cheval. Aujourd'hui, tu es la plus belle sous les branches. On te lave à grande eau comme une robe blanche. On te marque à jamais, au chiffre du soleil, on te parcourt de phonographes et d'abeilles. Un doux clochard abrite en ses mains un oiseau. Ivre, à midi, il se signe dans le ruisseau. Il éclabousse tous les yeux de ses prunelles. Quand il veut partir, c'est le Christ qui chancelle.
Rien à frire dans la poêle sans fond de l'avenir. Rien à tirer de la grenouille de l'enfance. Mais surtout, rien à boire dans la coupe de l'espérance. Sinon, un vin de tous les jours. Rêvais-je encore? Quel ange éberlué me nommait? Les heures comme des carpes se retournaient, tout près, sur le sommier du fleuve. Et pour la première fois, peut-être, j'entendis la corde d'un violon cassé. Voici que l'acajou verdit, que la lampe s'emplit de la marée inaugurale d'un poème, et que cet enfant d'autrefois se met à vivre à la fenêtre. Laissez entrer tous ceux qui rêvent. Laissez-moi m'habituer au récipient à peu près vide de la lune qu'un chien traîne en hurlant sur le pavé du quai. Je te vois, mon amour, ensoleillé par les persiennes de l'enfance, comme un matin trop beau couleur de thym, avec ce frétillement d'ablettes de tes jambes et cette lente odeur de lessive et de pain. Marche un peu dans la rue sans ombre, vers la flamme. Redresse-toi un peu que j'accède à présent, par le puits de tes yeux aux sources de ton âme, où n'ont jamais plongé les racines du temps.
Voilà ce journal inachevé de René Guicadou, ce titre de poème que lisait Thérèse. Ça pourrait être une métaphore de toute la vie de René Guicadou. On a vu qu'il vient de rencontrer Hélène et rencontrer l'amour aussi avec Hélène Cadou, qui va elle-même d'ailleurs devenir une poétesse à son contact, comme elle le dit, et vont s'ouvrir sur la fin de la guerre les 5 dernières années de Cadou à Louis Ferre, où il s'installe, Louis Ferre qui n'est pas très loin de son village natal, de la Brière, c'est un peu plus au nord-est. Il va s'installer là comme instituteur jusqu'à la fin de sa vie, donc pendant 5 années. Il va rester très proche des gens du village, et au contraire de ses amis qui vont partir, eux, peu à peu, enfin tous les gens de l'école de Rochefort, petit à petit, vont partir vers Paris. Marcel Béalu va ouvrir sa librairie, Jean Rousselot va devenir éditeur et passeur de poètes aussi. La plupart s'en vont, donc Michel Manol aussi, je crois. Et par contre, René Guicadou reste là, il a des textes dans lesquels il dit sa répulsion contre les salons littéraires, les prix, etc. Et c'est peut-être aussi pour ça que son œuvre ne perce pas très vite, parce qu'il est très peu publié. Il obtient néanmoins un article particulièrement élogieux dans les Lettres françaises qui sont dirigées à l'époque par Aragon. Je crois que c'est René Lacote qui fait un très bel article sur l'ensemble de sa poésie. Et il reçoit d'ailleurs un prix du Comité national des écrivains, qui est un petit peu l'instance qui régente un peu toute la littérature à la Libération. Et bon, il en est très touché, évidemment, il est très content de ça. Je voulais juste lire, pour finir ce portrait de Cadou, un tout petit extrait où Michel Manol décrit les dernières années de Cadou, et c'est peut-être sur cette image qu'on restera. Il reconnaît aussi ses frères humains dans les anciens du village, les hommes aux oreilles poilues qui pourraient vivre chantournés avec des barbes comme des crédences, Jean Bialan, charpentier bistrot, qui, comme compagnon du devoir, a fait son tour de France et qui lit à la veillée sous les poutres où rutilent les numéros victorieux des conscrits les poèmes de René Guicadou. Ceux de son voisinage sont encore Victor Garidel, le menuisier, ancien navigateur qui a rapporté du Sénégal des masques nègres qu'il offrira en cadeau de noces à René, Jules Lamoulageur, autrement dit le réparateur de moulins, le bon copain avec qui l'on boit le gros bleu après la classe du soir, Francis Garidel, qui cumule les fonctions de secrétaire de mairie, d'épicier et de cafetier, Lucien, le forgeron, le petit cordonnier, si honnête qu'on appelle Jean Juste, Esprit, le boulanger. René fait la classe dans une grande bâtisse tapissée de lierre et cernée par un jardin. En blouse grise passée au-dessus d'un chandail à mailles serrées comme le bois qu'il débite chaque matin à la mauvaise saison, pousse volontiers ce qu'il appelle des coups de gueule et rabroue sans aménité tout en savourant l'innocente cocasserie de sa réponse, l'élève qui confond un poltron avec quelqu'un qui joue de la trompette ou celui qui baptise imperturbablement la mère de Saint-Louis branche de cassis.
Le diable et son train. Clovis, mon bel enfant, qu'as-tu ? Disait la mère. Mère, j'ai vu Satan sorti de terre. Diable, en cette saison, est ma foi fort troublant. Aurais-tu bu du cidre, plus que ton content ? Je vous jure, maman, sur vous qui m'êtes chère, je n'ai bu que sirop et gobelet d'eau claire. Je te crois, mon enfant, tu auras trop couru, et c'est ton cœur à vif au loin que tu as vu. Je n'ai pas vu mon cœur, mais des bassines rouges, des flammes, des serpents et un visage rouge. Serais-tu point passé par les bords de l'étang, sous l'aulne où le brûleur tient guérite au printemps ? Ô mère, je connais l'odeur de l'eau de vie, toute chaude et qui est comme un bouquet d'ortie. Je ne suis point passé par le bord de l'étang, c'est venu d'un seul coup en travers de mon sang, comme un fouet de ficelle et un tour de toupie. Satan, c'était Satan, mère, je vous le dis. Très bien, dit le parrain, qu'on m'apporte ma hache. Mais l'enfant s'envola dans des vêtements riches.
Ce soir du 2 janvier 49, vers 5 heures, la campagne est comme une vieille demeure pleine de plâtre, de tapisseries écorchées, avec une tache de sang sur le plancher. Sur le coin de la cheminée de marbre empire, une pomme rouge éclatée comme une tirelire, des vieux journaux qui traînent dans la suie, celle des jours anciens et de très vieilles pluies. Je pense à un hôtel triste près de la gare, sans eau courante et à Mauves-sur-Loire. Je pense aussi à la maison de Moreau, Moreau qui avait sa vigne et qui aimait ses animaux, et nous allions tous deux durant la guerre, avec un sac, chercher du foin et la litière pour les bêtes. Dans la lumière et les violettes, cherchaient le ciel avec de grosses mains. Je pense à des trains qui partaient avec 5 heures de retard et l'on causait avec des gens qu'on ne reverrait pas plus tard. Près du guichet et des affiches à l'odeur fade de colle fraîche, l'acétylène au fond brûlé et le délivreur du billet sur ses réseaux nous emmenait prendre le coup dans sa cuisine. Minuit, à la gare des forges, on ne regarde pas l'horloge. Je vais parmi les oserais et je sais bien que tu m'attends, poète, au visage d'enfant dont les vers ne sont pas mauvais. Et sous la lampe où brûle un feu d'alcool, comme je m'imagine le cœur d'une créole là-bas, où il fait chaud et où l'on pend des hommes noirs à la porte des blancs, nous restons sans rien nous dire. À lire des livres maudits, et des tas de brochures qui nous arrivent par le miracle de l'esprit de cette rive où l'on cueille des jonquilles encore, où l'on voit les mains se nouer pour autre chose que l'effroi. C'est à cela qu'en ce 2 janvier 49, je pense, alors qu'on me croit à des kilomètres de distance, perclus de bleu dans le marasme d'un ciel gris, lorsque je fais voler sur mon propre établi les copeaux de ce cœur qui se love tout comme la peau tiède et dorée de la première pomme. Ainsi s'achève cette deuxième heure consacrée à la vie et au poème de René Guicadou. René Guicadou, une comète, vie très brève, 31 ans pour écrire une œuvre considérable. On va d'abord peut-être dire où se trouvent ces œuvres. On trouve presque l'intégrale de la poésie chez Pierre Segers sous le titre « Poésie, la vie entière ». Des romans, des essais également, « Le testament d'Apollinaire », publié je crois chez Rougerie. Et puis il y a toujours le petit poète d'aujourd'hui écrit par Michel Manol, pour ceux qui ont la chance de le trouver chez les bouquinistes, c'est dans la collection Pierre Segers. Il y a aussi les poèmes d'Hélène Cadou, publiés chez Rougerie également. Et puis, je remercie évidemment tous les camarades qui m'ont aidé à préparer cette émission. Christian Boisson pour la partie biographique, Mélanie Arnal, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, Aurélie Vallier qui ont prêté leur voix, ainsi que Patrick Vendrin et Marc Pastor. Et puis, les musiciens à qui on a emprunté leur musique, Manu Lannuel qui chantait Cadou, Jafar Youssef, Michel Bernard qui a fait la musique de « Je t'attendrai » que j'avais le plaisir d'interpréter avec Olivier Roman Garcia, le groupe meusien de musique irlandaise « L'échappée belle », les musiques d'Egberto Gismonti et de Nana Vasconcelos qu'on pouvait entendre derrière certains textes. J'ai fait aussi l'erreur dans la dernière émission de ne pas mentionner qui était compositeur de la musique de la chanson « Les petits trains » que chantait Jacques Douai. Eh bien, c'est Jacques Douai lui-même. Vous pouvez toujours inviter la BIP dans vos lieux de travail, dans vos lieux de loisirs et dans vos lieux de paresse, car pour nous, il n'y a de bonne poésie que dite. Et vous pouvez également écouter cette émission en permanence sur le site www.michelarbatz.com. À bientôt.